temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, heureux d'accueillir pour une deuxième semaine quelqu'un qui a, peut-on dire, un engagement profond envers le bénévolat, qui l'aide à reconnaître et accepter la maladie qui, un jour, lui fera perdre la vue, la rétinite pigmentaire. Avec nous, François Beauregard, effectivement, vous vous êtes beaucoup engagé auprès de certains groupes. Oui. Et probablement que la maladie dont vous souffrez vous a amené à faire davantage dons de vous-même et des talents oui. qui sont les vôtres.
Ben, vous avez raison dans ce sens-là. Je pense que de s'apitoyer sur son sort est vraiment la pire chose que quelqu'un peut faire pour essayer d'être heureux. Là, c'est comme aller dans le sens inverse. Et j'ai appris dans différentes circonstances de ma vie qu'en se tournant vers les autres, on s'oublie soi-même. Quand je joue très mal au golf, puis ça m'arrive de jouer au golf et ça m'arrive assez souvent de jouer mal, au lieu de pester et de tirer mes bâtons dans l'étang, j'essaie d'encourager mes partenaires de jeu. Puis là, tout d'un coup, je recommence à mieux jouer. Et parce qu'on sait tous que ça joue très mal au golf quand on est de mauvaise humeur. La vie est très pénible quand on est de mauvaise humeur aussi. Alors, pour éviter de m'apitoyer sur mon sort, j'ai essayé de m'occuper des autres. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Frédéric Beauvais, qui, je pense, habite maintenant à Paris. Un jeune homme complètement aveugle qui était avocat et partenaire chez Stikeman Elliott, que j'ai rencontré quand j'ai commencé à utiliser une canne blanche moi-même. Et il m'a dit, tu sais, François, on est très chanceux, toi et moi, on a des carrières, on est dans le monde des affaires, on a des relations, et ainsi de suite. La plupart des gens qui ont des handicaps visuels n'ont pas cette chance-là. Les personnes handicapées sont peu employables et le taux de chômage parmi elles est très élevé. Et les personnes handicapées visuelles ont un taux de chômage et un taux de pauvreté particulièrement élevé. Et c'est le devoir de ceux qui sont dans le même naufrage, mais qui sont capables encore d'avoir deux mains sur la rame, d'aider les autres. Et c'est ce que Frédéric m'a appris et c'est ce que je me suis appliqué à mettre en place. Et comme ça, ça m'a permis moi-même d'intégrer ma maladie parce qu'en aidant d'autres puis en me tenant dans le milieu des personnes handicapées visuelles, j'ai rencontré un tas de gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. Puis je les regardais vivre puis je me dis, mon Dieu, ils se plaignent pas. Ils vivent une vie. Pourquoi je ferais pas pareil?
Et en dépit de ce que vous nous racontiez la semaine dernière, les difficultés inhérentes à votre, peut-on dire, votre déchéance à un moment donné de votre vie, vous avez su remonter la pente, atteindre la montagne. Oui. Aujourd'hui, vous êtes encore conseiller financier pour une grande firme.
Je suis conseiller financier pour une grande firme. Je suis même membre du conseil d'administration d'une firme indépendante canadienne importante. Je suis Chartered Financial Analyst. En fait, j'ai beaucoup mieux réussi dans la deuxième moitié de ma carrière que dans la première.
Et diriez-vous, parce que justement, votre façon d'envisager les choses s'est profondément modifiée?
Oui, tout à fait. J'ai essayé de m'appliquer à faire du bien à mes clients puis de les aider en me disant, si j'aide mes clients, puis que je suis fier de ce que je fais, puis je suis capable de me regarder le matin dans le miroir puis de dire, aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un, là. Le reste va suivre. C'est ce qui est arrivé.
Et ce qui est étrange, c'est quand même dans les choix musicaux que vous allez nous proposer au cours de la prochaine heure, on sent là aussi une différence. On pourrait s'attendre à des chansons, peut-être à des ballades, sans dire des ballades simples, à de la musique relativement joyeuse. Oui. Elle est joyeuse, mais particulièrement très, très distinctive et festive. Oui.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime une chose. J'aime un style de musique. J'aime la musique qui va me faire spontanément lever de mon siège, battre du pied, Puis, des fois, je m'aperçois qu'en écoutant les paroles, ben, ça dit aussi des choses qui me plaisent.
Là, vous nous proposez Amazing Grace, qui est un classique, mais la cornemuse.
Ah, la cornemuse. J'ai appris, Armand, que vous et moi partageons le même goût. Et j'en suis heureux. Vous savez, on est dans une minorité. J'aime beaucoup la cornemuse, même que je me suis payé un joueur de cornemuse pendant mon mariage. Mais le fait est que c'est un son... Qui est comme un son de l'âme, mais c'est extra-humain, c'est autre chose. Évidemment, Amazing Grace, les paroles à l'origine de cet hymne religieux qui a été mis en musique par un pasteur au 18e siècle.
Oui, John Newton.
Exact. Les paroles que vous n'entendrez pas, là, parce que c'est la pièce musicale. Mais ça dit que j'étais un dépravé, j'étais dans la déchéance. I was blind and I saw the light, évidemment. Pour quelqu'un qui est handicapé visuel comme moi, ça sonne. J'ai accepté, il y a Scott Peck qui a écrit un excellent livre qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » où on accepte qu'il y ait un profond changement de qui nous sommes malgré notre orgueil pour être capable de vivre autrement.
ceux que nous entendions, c'était le Royal Scott Dragon Guards.
Dragon Guards, enfin, ça, il n'y a pas plus écossais que ça.
Avec le kilt, sans
doute. Voilà, oh, ils ont tous des kilts, croyez-moi, sinon...
Où se situe, François, votre spiritualité à l'égard de ce que vous nous disiez? On sent que vous êtes quelqu'un qui est quand même branché sur l'essentiel.
Bien, moi, je vais vous dire, j'ai pas grandi dans une religion très encadrée ou organisée, et je suis peut-être un peu même réfractaire à ce qui est trop organisé. Ma femme a une pratique bouddhique qui est très enrichissante et bonne, et qui lui fait du bien à elle et autour d'elle. Et parfois, on parle de ces choses-là, puis on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est juste qu'on n'est pas nécessairement arrivé au même endroit par le même chemin et qu'on n'appelle pas toutes les choses du même nom, mais ça se ressemble beaucoup. Moi, je vais vous dire que j'essaie de méditer, j'essaie simplement d'évacuer toutes les pensées dans ma tête pour finalement ne faire que sentir comment je suis. Et je me concentre parfois sur quelque chose qui est extraordinairement simple, c'est quand vous respirez très lentement, juste avant que vous preniez votre prochaine bouffée d'air, là, vous venez d'expirer, puis là, il y a un espace d'à peu près 2 secondes. Là, hop, le corps doit absolument réagir, il faut que vous respiriez à nouveau. Mais ça, vous n'êtes pas capable de ne pas le faire. Hein? Ça, c'est l'essence, c'est la vie qui vous habite, à laquelle vous ne pouvez rien, puis c'est ça qui fait que vous êtes ici, maintenant, aujourd'hui. Et ce moment-là est extraordinaire, puis je me dis tant que je serai habité par cette pulsion de vivre, là, bien aussi bien avoir du plaisir puis de se rendre utile.
Est-ce qu'on devrait prendre cette habitude individuellement, cette conscience de la respiration, par exemple? Dans un monde où tout va à un rythme effréné, mm-hmm. où on prend même plus le temps parfois de penser, on a plein de pensées inutiles qui nous habitent constamment
oui,
à l'esprit.
Oui, comment je vais m'habiller demain? Qu'est-ce que je mange pour souper? Est-ce que celui dont j'aime pas tellement la face au travail va-t-il encore me tomber sur la rate demain? Quand on médite, c'est une façon d'y arriver, c'est d'essayer de laisser passer tout ça, puis essayer de pas retenir ces pensées-là avec... Mais c'est un peu comme regarder une rivière qui coule, puis ça veut dire pas nécessairement mettre la main dans l'eau pour l'arrêter, juste accepter que l'eau coule. Mais ça prend du temps, mais une fois qu'on y arrive, puis après peut-être 15 ou 20 minutes, on peut arriver à ce stade-là, puis parfois, si j'ai un problème, il y a des choses qui m'ennuient, je vais spontanément simplement demander de l'aide ou des solutions ou un éclairage ou d'être utile. Puis, des fois, je sens physiquement comme de la chaleur, comme si j'étais pris dans les bras de quelqu'un ou de quelque chose qui me réconfortait. Alors, c'est physique et intuitif, là. C'est pas un truc organisé, ma religion, moi.
Cette musique de Jean-Sébastien Bach nous a peut-être permis de réfléchir sur les propos de François Beauregard. C'était la bourrée de la suite pour orchestre numéro 3 en Ré, BW 1068, et c'était le Vienna Concertus Musicus dirigé par Nicolas Arnoncourt qui interprétait le tout. Cet instant que vous vous donnez, mm-hmm. probablement quotidiennement. Mais plus que quotidiennement.
Ça demande de la discipline, là. J'apprends l'allemand aussi de ce temps-ci. Ça aussi, ça prend de la discipline.
Et pourquoi l'allemand, tu sais?
Parce que c'est simplement un exercice intellectuel.
Et vous avez besoin de ces défis-là?
Ben, c'est parce que j'aime ça. C'est, d'abord, je suis peut-être un peu germanophile. J'ai été en Allemagne plusieurs fois. Puis, il y a des gens qui font des sudoku. Bon, ben, c'est correct, compter jusqu'à 15 toute sa vie. Mais moi, j'aime ça plutôt apprendre d'autres. Puis, Deutsch ist kein einfach. L'allemand n'est pas facile. Donc, c'est une façon d'arriver à
surmonter des
difficultés. Oui, mais c'est juste un exercice intellectuel. Là. C'est comme faire des mots croisés, mais c'est plus intéressant, c'est tout.
Mais ça dit beaucoup quand même, parce que bon, faire un exercice intellectuel, c'est de maintenir en soi la vie aussi.
Oui, ben c'est d'exercice qu'on a, c'est de pratiquer, puis d'être vivant, d'avoir du plaisir. C'est la même chose que de faire du sport. C'est la même chose que de lire un bon livre ou d'appeler un ami. C'est d'être avec le reste de l'univers. Mais parfois, c'est simplement de s'asseoir et de revenir sur soi. Là.
Oui, ce serait le contraire de ce que va nous chanter B.B. King.
The thrill is gone. Oui, ça veut dire que le party est fini.
Mais là, il est loin d'être terminé. Là. Mais cette chanson, elle est merveilleuse. Alors, on va entendre ce grand de la guitare, B.B. King. Là, on a quasiment le goût de dandiner sur notre chaise.
Oui.
Un grand disparu, d'ailleurs.
Oui,
on voit que vos choix sont quand même éclectiques.
Bien, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, c'est, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer tel type parce que c'est ce type de musique-là. J'aime si ça me fait vibrer, si ça va me rejoindre, j'aime ça. J'ai composé les paroles d'une chanson country, imaginez.
Vraiment?
Oui.
Et que disait cette chanson?
Ça, c'était plus ou moins ironique. Là. Ça s'appelle « Il pleut sur la montagne ». Depuis que tu m'as quitté, enfin, « Il pleut sur la montagne », des choses comme ça. Et le dernier couplet, ça dit que « Seul à la campagne, je mange la dernière lasagne que tu m'avais préparée ». Écoutez, c'est pas sérieux. Mais j'ai un de mes amis, musicien de talent, qui l'a enregistré. Alors, voilà.
Ah, c'est malheureux que vous ne nous l'ayez pas apporté. Ah, on l'aurait fait jouer avec grand plaisir.
Oui.
Mais vous avez quand même... Bon, vous vous laissez cet espace quand même de un espace, comment dire, bouffon.
Oui,
espace...
oui, je suis je peux avoir mes moments loufoques, oui. Je suis pas reposant dans une chambre de joueurs ou dans l'autobus avec le reste de l'équipe.
Écoutez, là, on va vous faire plaisir parce qu'on parlait tantôt de musique et de cornemuse. Vous savez que il y a un groupe qui est particulièrement... comment appelle-t-on le musicien qui joue de la cornemuse? Est-ce qu'on dit un cornemusiste ou juste...
Cornemusier?
Cornemusier.
Bagpiper.
Bagpiper en anglais, mais en français, il faudra trouver le terme exact.
Oui.
Alors, toujours est-il...
Les Monroes?
Les Monroes et David Medvin, qui vont nous interpréter A Scottish Soldier, qui est une chanson, qui est une, peut-on dire, une chanson traditionnelle en Écosse, mais qui est mise ici en musique. Et l'interprétation est vraiment à jeter par terre. Même si on n'aime pas la cornemuse, je pense qu'on ne peut pas ne pas tomber sous le charme en écoutant cette pièce-là. Je suis certain, François, que vous allez apprécier, vous qui êtes un grand amateur de cornemuse. Et vous en avez, vous m'aviez dit tantôt que vous aviez même de la cornemuse à votre mariage.
Oui,
faire.
Oui. Ben, ça me semble être adéquat, un grand terrain, des arbres, puis on entend au loin la cornemuse, le son qui se rapproche, qui s'éloigne. Hein, c'est un son qui c'est un son qui est humain. Hein.
Et vous êtes allé en entendre beaucoup quand vous étiez en Écosse.
J'ai déjà été en Écosse et puis ma femme, à tous les trois coins de rue, j'arrêtais parce qu'il y avait quelqu'un qui jouait la cornemuse. Là, alors, traverser la ville a été assez long.
Nous sommes de retour à l'émission Au gré du temps en compagnie de François Beauregard. J'aimerais ça, François, que vous nous parliez un peu de cette télévision descriptive pour les handicapés visuels auxquels vous avez participé avec Philippe Lapointe.
Encore, oui. Philippe a été a eu le mandat de démarrer à Mi-Télé la chaîne française à Montréal il y a maintenant 2 ans et quelques. Et après ça, il a fait d'autres choses dans sa carrière, mais il a certainement mis ça sur les bonnes rails. Les personnes handicapées visuelles aiment ça participer à la vie. Donc, la télévision fait partie de la vie et d'être, de suivre des séries qui sont populaires, qui sont intéressantes, qui sont divertissantes, de l'actualité, des documentaires. Bon Dieu, c'est pas parce qu'on voit mal que ça nous intéresse pas, au contraire. Voilà. Et je sais que ça semble être un oxymore, de la télévision pour des gens qui voient pas. C'est comme moi, je joue au hockey puis je suis handicapé visuel. Ça aussi, ça semble être un oxymore. Mais ça n'en est pas du tout. La différence de la Mi-Télé, c'est qu'il y a une voix off qui est enregistrée idéalement au moment même de la production de l'émission et qui va décrire succinctement à des moments pertinents ce qui se passe à l'écran. Ça veut dire Armand, animateur de radio, et François conversent dans l'obscurité. Voilà. Bon, alors, puis après ça, ben, on se parle, mais les gens savent de quoi. Quel est le contexte de la conversation?
Où la personne entre dans la cuisine.
Avec un sac d'épicerie, et puis la dame est surprise avec un enfant déguisé là, qui lui fait peur. Bon, ça, c'est autre chose. Mais essentiellement, c'est ça. Et c'est une télévision qui est très écoutée par les gens qui
l'apprécient. Oui, c'est apprécié. C'est la question que j'allais vous poser.
Oui, c'est très apprécié, c'est très rassembleur. Et ça existe au Canada anglais. Le Canada, AMI, Accessible Media, et AMI Télé au Québec, on est des pionniers dans ce domaine-là de la vidéodescription, hein, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Nos techniques, nos façons de faire le doublage ou d'insérer des commentaires et ainsi de suite, on est en train de montrer à d'autres pays comment le faire. L'accessibilité médiatique est très importante parce que d'une part, la technologie, l'Internet, les courriels et ainsi de suite, les logiciels adaptés de synthèse vocale, tout ça a permis de se détacher de l'imprimé et a permis aux personnes handicapées de découvrir un univers d'informations illimitées. Alors là, ça, c'est très bien. La télévision est encore un médium qui demande d'avoir une bonne vue. Alors, de faire de la télévision adaptée est une chose très importante pour les personnes. C'est une avancée très importante pour les personnes handicapées visuelles. Et on a beaucoup de téléspectateurs qui n'ont pas d'handicap visuel, mais qui aiment bien regarder nos émissions aussi.
Et comment y arrive-t-on? Par abonnement, j'imagine?
Bon, vous êtes juste besoin d'être au câble. Oui. Parce que vous l'avez de toute manière. Parce que AMI est une société à but non lucratif qui est financée par une souscription de quelques cents pour tous les abonnés du câble chaque mois à travers le pays.
Donc, le canal en question...
Vous ne le savez pas, mais vous payez pour AMI, alors aussi bien le regarder.
Bon. Et les gens qui y participent, ce sont tous parce que vous êtes bénévole?
Bien, est-ce que la plupart des gens qui y travaillent ont un handicap visuel? Oui. Mais AMI est plus large que ça, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'handicap visuel. Un des animateurs de l'émission à laquelle je participe parfois, qui s'appelle Sam Regarde, Kevin Breton. Kevin a des problèmes moteurs. Il est en fauteuil roulant, et ainsi de suite. Un jeune homme brillant, charmant et tout à fait professionnel. Alors lui, les personnes handicapées, on a un premier cercle. Les handicapés visuels, on a une réalité qui est propre, qui est la nôtre. Mais on comprend quand même assez bien les personnes qui ont d'autres formes d'handicap et vice-versa, parce qu'on a tous à se buter contre les barrières que la société dresse devant nous.
Avant de présenter la prochaine chanson, j'aimerais que vous nous contextualisiez le pourquoi de cette chanson d'un groupe italien.
Sera perché ti amo.
Oui.
Oui. Ben, en fait, voilà, c'est une chanson qui est joyeuse. Ça parle des sentiments que l'on vit quand on est en amour. Et c'est un plaisir que j'ai encore à 58 ans d'être en amour. Alors ça, c'est
mais racontez-moi
super.
Comment vous avez retrouvé cette chanson.
Ça, c'est un peu idiot. Oui, bon, alors, j'entendais souvent ça au resto italien, puis les seuls mots que je comprenais, c'était piano-piano, qui est au début, ce qui veut dire assez vite, là. Et là, j'étais sur Google, j'ai pitonné piano-piano, paroles, chansons italiennes. Là, ça m'a pris une heure et demie. Un samedi matin, à 5 heures du matin, là, où je faisais un peu d'insomnie, j'ai fini par trouver la chanson. Quand je l'ai fait jouer, puis je l'ai trouvée sur YouTube, là, j'en ai pleuré de joie et je l'ai écoutée 17 fois d'affilée.
Alors, on va la découvrir, nous. ça, ça fait partie de la pop italienne,
Oui, c'est de la pop italienne.
Des années 80, probablement.
Oui, oui, exactement. Vous avez Raffaella Carrà et d'autres comme ça. Là, mais l'italien, c'est une langue qui se prête tellement bien à chanter avec cœur.
Qu'est-ce qui vous rejoignait dans cette chanson-là?
En fait, c'est drôle, parce que moi, je trouve ça joyeux. C'est l'air, c'est entraînant. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas sourire quand on entend cette chanson-là.
Ah, c'est vrai.
Ça rend de bonne humeur.
Oui. Même si on ne comprend pas les paroles.
Même si on ne comprend pas les paroles, c'est pas grave, ça rend de bonne humeur. On ne peut pas être triste quand on entend ça.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique de façon générale?
Pas d'une façon...
Méditative,
non, pas vraiment. On va à l'orchestre symphonique, on écoute la musique classique. Là, c'est vraiment un exercice plus d'introspection pendant quelques heures. Mais il n'y a pas de musique vraiment qui joue à la maison. On n'écoute pas vraiment de musique ou dans l'auto. Mais c'est plutôt que des fois, je tombe sur une pièce, puis ça m'accroche.
Ça vous accroche.
Oui, puis là, je l'écoute. Puis j'avoue que quand j'ai eu le cancer deux fois au cours des 4 dernières années, on a fait pas mal de traitements, de radio puis de chimio. Oui. Et là, la musique, ça soutient beaucoup. Ça, oui.
Qu'est-ce qui vous accroche d'abord, la mélodie ou les paroles?
D'abord, c'est la mélodie. Si je sens comme une sorte de vibration ou une décharge électrique, là, puis je commence à bouger, le pied commence à bouger, il faut que je me lève, ou la tête commence à me dandiner. Là. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un avion, j'ai écouté une heure de rétro-disco, des choses comme Get Up and Boogie. Là. J'étais dans l'avion, j'avais des écouteurs sur la tête, les gens qui étaient à côté de moi devaient faire attention que je ne renverse pas leur café. Là. Alors, voilà.
C'est quand même particulier. On passe de l'italien à Pat Metheny. Décidément,
oui.
Là, on fait un grand saut.
Oui, là, c'est
on
autre chose.
On est dans un autre genre.
C'est une chanson où il y a des... en fait, le chœur au début, ce sont des enfants cambodgiens, parce que la chanson est basée sur un hymne bouddhique cambodgien. Mais moi, ce que j'aime dans cette chanson-là, c'est que c'est la chanson que nous écoutions, mes amis et moi, quand on se dirigeait vers le mont Katahdin, qui est dans le Maine, qui est le terminus de la piste Appalaches, parce que j'ai fait beaucoup de pistes Appalaches. Ça vient de mes années de camp, mais j'ai continué à en faire à la vie adulte. Et l'amitié et ce que l'on apprend sur soi-même dans la montagne, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et cette chanson-là, c'était devenu un peu comme notre chanson thème quand on faisait une journée de route là, pour aller faire de la piste.
François Beauregard, avant d'entendre ce qu'on vient d'entendre, vous nous disiez que l'amitié nous permet de découvrir beaucoup ce que l'on est.
Oui.
De quelle manière?
L'amitié, c'est comme le golf. Hein. Si vous êtes un tricheur, vous allez le savoir. Si vous êtes capable de vous regarder dans le miroir après, mais vous avez pas mal de front.
Mais on dit qu'on n'a pas généralement beaucoup d'amis. On a beaucoup de connaissances.
On a beaucoup de connaissances, mais on n'a pas beaucoup d'amis. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut dire « j'ai peur », à qui on peut dire « ça marche pas, ça va pas bien ».
Avez-vous eu souvent peur dans la vie?
Quelquefois, puis quelquefois très peur, oui. Mais quand on pense mourir, quand on s'aperçoit qu'on a le cancer, c'est pas drôle sur le coup. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui on peut le dire.
Et comment chaque fois retrouve-t-on la voie pour surmonter la peur, l'épreuve?
En fait, c'est drôle à dire, mais c'est que ça, quand les gens disent « Ah, t'es donc pas chanceux parce que t'as souvent été malade ou t'as eu des épreuves », mais en fait, on sait qu'on est capable de le faire parce qu'on l'a déjà fait. Puis, c'est terrible à dire, mais je sais que les probabilités que je sois atteint... Les gens qui ont déjà eu deux cancers ont des probabilités non négligeables d'en avoir un troisième dans leur vie. Alors, je sais que ça peut revenir. C'est correct. Si ça revient, ce sera pas drôle. On va retourner à la guerre, on va remonter dans le ring, mais on va faire ce qu'on doit faire.
Chaque fois, je présume qu'on apprivoise toujours un peu mieux la finalité.
Oui, un jour, ça va être fini. Pendant 30 ans, j'ai fait de la planification financière, puis c'est remarquable comment les gens, quand ils parlent de planifier leur succession, leur testament, ils parlent toujours que, si je meurs, c'est pas si tu meurs, c'est quand tu meurs. On a de la misère à accepter ça. Hein. C'est pas dans l'être humain, là, on veut s'accrocher à la vie. Alors, autant je m'accroche à la vie, autant je peux vous dire que je sais qu'un jour, ça va être fini.
Mais
c'est pour ça que quand je sais pas que ça va, quand ça va être fini, je suis aussi bien d'avoir beaucoup de plaisir et de bonnes relations avec les gens, avec moi, pendant que ça dure, parce que peut-être ça va être fini demain.
Mais c'est paradoxal qu'un être tel que vous, qui a une très grande conscience de cette finalité, à travers évidemment tout ce que vous avez pu vivre, soyez au plan du quotidien dans un travail qui est à l'opposé complètement.
Oui, oui.
Quand on fait de la planification financière.
Quand on est des gens riches à être plus riches, c'est sûr qu'il faut
avoir... On est dans la vie. Là.
Bon, on est dans le matériel, mais enfin, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont riches que ce sont de mauvaises personnes, voyons là. On a un préjugé judéo-chrétien parfois contre le succès financier, là, il faut faire attention. Mais l'idée, c'est que il faut... À un moment donné dans ma carrière de planificateur financier, bien que je faisais de mon mieux pour mes clients puis tout ça, des fois je sentais un certain vide en me disant peut-être que des gens que je rencontre pas parce qu'ils sont ils ont pas assez d'argent pour venir me voir. Je pense que c'est important de se tourner vers les autres puis d'avoir un sens à sa vie qui n'est pas que le succès mesuré à cette échelle-là.
Que diriez-vous si on revenait aux Monroes?
Oui.
Alors, Mool of Kintyre, composé en 1977 par l'ancien Beatles...
Sir Paul
McCartney.
Oui.
Et son groupe, à l'époque, c'était les Wings, je crois bien.
Oui, avec sa femme.
C'est ça. C'est une chanson qui témoigne de tout l'amour que l'auteur voue au paysage pittoresque de l'extrémité de la péninsule. Mool en écossais signifie, je pense, péninsule. Mm-hmm. Alors, il a même, paraît-il, à une certaine époque, occupé une maison dans cet endroit qui lui servait de studio d'enregistrement jusqu'à la fin des années 60. Alors, il en a fait une interprétation musicale dans un style tout écossais, avec, bien sûr, cette interprétation qu'on va entendre, celle de The Monroes et de David Medvin à la cornemuse. Un petit cadeau pour vous et pour moi également et pour tout l'auditoire. mot sur cette chanson de Paul McCartney. 9 semaines qu'elle est demeurée en première place au Royaume-Uni. Elle a même dépassé les 2 millions d'exemplaires vendus. Je ne parle pas évidemment de l'interprétation de Damon Rose, mais de l'original.
Chose, oui.
Le succès fut mondial, sauf, et vous allez le deviner, à quel endroit n'a-t-elle pas connu de succès?
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Parce conséquence, que... pourquoi diriez-vous?
Ben, c'est à cause de l'égocentrisme culturel des Américains.
Sans aucun doute. Toujours est-il que Paul McCartney s'est vengé d'une certaine façon parce qu'il ne chante jamais cette chanson en terre américaine. Il ne l'a jamais interprétée en terre américaine. Une espèce de pied de nez aux Américains qui ont boudé cette chanson. C'est assez incroyable quand même. C'est une petite histoire, l'histoire de la musique.
Oui, oui, mais vous avez remarqué à quel point il est facile de deviner la réponse à votre devinette.
Oui. Il y a un monde qui sépare le Royaume-Uni et les États-Unis.
Oui, tout à fait.
Et plus précisément, c'est depuis ces derniers mois avec
l'Europe et l'Amérique, oui.
Avec l'élection, entre autres, du dernier président qui a surpris un peu... les gens, mais en même temps,
ils ont voté pour lui. Voilà, alors il faut se plier à ça. Mais c'est assez typique, généralement, dans des élections où il y a relativement un taux de participation qui est plus faible, vous pouvez avoir des mouvements populaires là, qui passent la barrière. Oui,
êtes-vous inquiet, vous, du sort du monde?
Je trouve que la population, c'est pas une question politique, je pense que c'est plutôt sociale. Les gens tendent à être de plus en plus égoïstes et centrés sur eux-mêmes. On regarde sur Internet uniquement les nouvelles qui nous intéressent, alors qu'avant, on était obligé d'entendre toutes les nouvelles avant d'avoir celles qui nous intéressaient. Il y a très peu de courtoisie, les gens n'ouvrent plus les portes, font plus attention aux voisins. Il y a comme une courtoisie et une façon de vivre en société qui tend à disparaître. On est dans une société où plein de petits gestes quotidiens où les gens sont de plus en plus uniquement centrés sur la satisfaction immédiate de leurs propres besoins au détriment des autres. Il y a comme juste parce que vous existez, vous avez le droit à quelque chose. Vous voyez ça dans les publicités beaucoup aussi.
On oublie la notion de responsabilité.
Il n'y a pas beaucoup de responsabilité. Et il n'y a pas beaucoup de d'aspects communautaires ou mutuels. Les gens sont pas très polis les uns envers les autres.
L'essence de la vie pour vous?
Bien, moi, je pense que les deux valeurs qui m'ont le plus aidé dans la vie, c'est la persévérance, et ça, c'est la discipline, et c'est très personnel. C'est de se fixer un objectif, puis d'y arriver, puis d'avoir vraiment la tête dure, puis y arriver. Et l'amitié.
Et votre définition du bonheur serait?
C'est de vivre une autre journée où je peux faire du bien tout en ayant du plaisir.
Je vous en pose une difficile avant de terminer. Oui. Si demain matin, vous aviez à écrire votre autobiographie, quel serait le titre?
C'est pas parce que j'ai pas essayé.
Ben, François Beauregard, merci d'avoir, ne pas avoir essayé, mais d'avoir été très présent auprès de nous au cours de ces 2 dernières semaines. On a appris un peu plus sur le don de soi, parce que je pense que vous êtes un témoignage vivant de l'importance d'être en relation avec les autres. Je pense que c'est une valeur fondamentale pour vous.
Ouais.
Et puis, on va vous souhaiter le meilleur pour la suite des choses, quelles qu'elles soient. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision de Pierre Degagné, Armand Dubois à l'animation et la réalisation. Et je laisse le mot de la fin à François pour nous présenter le thème de fermeture, Work Song.
Work Song de Cannonball Adderley, un excellent jazzman américain qui est mort trop vite dans les années 70. Work Song, c'est relevez vos manches, arrêtez de vous plaindre, faites ce que vous avez à faire, ça va bien aller. Thank you.
Thank you.